Bonjour Mikaïl.
Bonjour.
Merci beaucoup de m'accorder quelques instants parce qu'en fait on s'est retrouvés ensemble à mener un projet en commun, mais en fait on n'a pas expliqué de quoi il en retournait. Tu m'as sollicité parce que dans le cadre des Erasmus Days, qu'est-ce que c'est que ça déjà, s'il te plaît?
Alors c'est 3 jours, donc 15, 16, 17 octobre, pour célébrer les mobilités Erasmus, que ce soit des étudiants, des stagiaires, des formateurs, de tout le monde, et avoir ces 3 jours nationalement célébration pour la mobilité.
Ouais, c'est mettre l'accent sur ces multiples dispositifs et sur l'échange des jeunes entre les contrées.
Exactement, c'est ça. On met l'accent comme ça permet à d'autres de se dire, ah bah tiens, c'est possible dans ma région, c'est possible dans mon département, bah pourquoi pas moi? Et puis il suffit de voilà de rencontrer d'autres jeunes, de venir nous voir à la Maison de l'Europe pour pourquoi pas lancer un projet de mobilité.
Là, en l'occurrence, c'est le lycée Augustin Hébert à Évreux qui a comment dire, une section, un professeur très investi dans ce domaine qui a essayé de mettre en lien d'anciens expérimentés avec de nouveaux qui seraient intéressés. Ça n'a pas pu se faire. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'à la Maison de l'Europe où tu officies en tant que directeur, il y a une jeune femme qui, justement, elle, a beaucoup voyagé et qui a pu échanger avec ces jeunes qui se posaient plein de questions.
Exactement. Donc Salomé, qui est ma nouvelle collègue, a pu discuter de sa mobilité avec les jeunes. Et donc ce lycée, donc le lycée Augustin Hébert, a aussi des mobilités. Bon, c'est un peu compliqué en ce moment à cause de la Covid, mais c'est un lycée très dynamique dans ce domaine. Donc c'était l'occasion d'échanger entre Salomé et ses jeunes.
Michael, de toute manière, si on se pose la moindre question, qu'on a des interrogations, des souhaits, et faut pas se freiner, faut pas se stopper, on vient à la Maison de l'Europe et comme ça, on est renseigné, informé, parfois conseillé, même orienté.
C'est ça, il suffit juste de pousser notre porte, même nous envoyer un message privé sur les réseaux sociaux. Nous, on est toujours là à vous répondre, à orienter les jeunes, à faire voilà, le CV, la lettre de motivation. Enfin, on prend parfois tout depuis le début. Donc n'hésitez pas, tout le monde peut venir à la Maison de l'Europe et nous, on sera là pour les aider.
On est en centre-ville hébroïcien, rappelle-moi l'adresse postale, s'il te plaît.
4 rue du docteur Lerat, c'est à côté, voilà, c'est dans le centre-ville, proche de la cathédrale, donc on n'est pas très très loin.
Voilà, et
Une
puis bien sûr les
pièce.
réseaux sociaux, et on peut vous joindre. Merci beaucoup, Mickaël. Allez, ce coup-ci, on les
Merci.
écoute.
Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci, et toi?
Oui, ça va, ça va. Comment t'appelles-tu?
Alors, je m'appelle Salomé.
D'accord. Quel âge as-tu?
J'ai 24 ans.
Et quelle étude fais-tu?
Alors, j'ai fait des études en communication en anglais et ensuite j'ai fait un master en direction de projets culturels, donc tout ce qui est culture, théâtre, musée, voilà.
D'accord. Et peux-tu nous expliquer ton métier?
Alors, actuellement, je travaille à la Maison de l'Europe de l'Eure, donc je suis chargée de mission jeunesse, c'est-à-dire qu'en fait, je travaille pour tout ce que la Mission de l'Europe fait, que ce soit des événements, aider les jeunes à partir en mobilité internationale, voilà, toutes les questions sur l'Europe, on renseigne, on informe, on sensibilise. Donc voilà, mon métier, c'est de participer à toutes ces actions. Voilà.
Ok. Et du coup, est-ce que ton métier, il te plaît?
C'est une très bonne question, ouais. Alors moi, j'adore mon métier. Je cherchais un métier où, en fait, pourrais faire des choses différentes tous les jours. J'avais envie que voilà le matin, ce que tu fais lundi matin, ce soit pas pareil que mardi après-midi. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé à la Maison de l'Europe parce que bah, chaque jour est différent. On travaille sur des événements différents, avec des publics différents. On est amené à se déplacer partout sur le territoire, à rencontrer plein de gens de plein de domaines. Donc ouais, je suis très contente de mon métier et j'aime beaucoup ce que je fais. Donc c'est cool.
Dans quel cadre es-tu parti en Erasmus?
Alors moi en fait je suis partie durant ma troisième année de licence. En fait je faisais une licence de communication à Toulouse et du coup j'avais vu qu'ils avaient un partenariat avec une université en Suède et du coup voilà c'était mon dernier semestre de licence 3 et donc voilà, je suis partie dans ce cadre-là avec le programme Erasmus+.
C'est quoi qui t'a motivé à partir dans ce projet?
En fait, moi, ma licence, c'était, comme je disais avant, c'était communication et anglais. Donc, je faisais beaucoup de cours d'anglais, mais en fait, écrit. J'écrivais beaucoup, on faisait de la traduction, lire des textes, tout ça. Et un jour, on avait une prof qui parlait anglais, et je me suis rendu compte que j'étais vraiment bloquée. Tu vois, j'arrivais pas du tout à lui parler en anglais, et je me suis rendu compte qu'en fait, mais attends, je sais écrire, je sais tout, mais parler, j'avais un gros blocage. Et du coup, ça a été un peu le déclic de me dire, mais ça sert à quoi de avoir fait deux ans et demi d'études d'anglais pour même pas être capable de m'exprimer dans cette langue. Donc ça, c'était le premier déclic, et puis aussi envie de bouger, quoi, envie de changer d'air, de voir d'autres personnes, de rencontrer d'autres gens. Donc voilà, le but c'était un peu voilà d'améliorer mon niveau d'anglais et aussi de me trouver quoi en faisant du voyage, en rencontrant des gens. Voilà, donc c'est ça mon déclic.
Quoi, est-ce que ça t'a aidé d'apprendre l'anglais en parlant avec d'autres personnes?
Alors oui, carrément, parce qu'en fait, quand je suis arrivée dans le pays, en Suède, déjà, moi, je parlais pas un mot de suédois, donc forcément, hop, tu bascules en anglais, et je dirais que même à partir du moment où j'ai dû commencer à faire mes dossiers, mon niveau, directement, j'ai senti que ça m'a aidé, parce que quand tu dois arriver dans n'importe quel endroit, tu changes de ville étudiante, bam, t'es obligé de réserver ton logement, en fait, de parler à ton propriétaire et de lui dire, voilà, je vais arriver, est-ce qu'il y a l'électricité dans le logement? Et ça, j'étais pas capable de le faire, donc à la minute même du départ, je dirais, rien que de réserver mon billet d'avion, bah là, ça m'a tout de suite aidé en anglais, et franchement, après 6 mois, je peux te dire que oui, mon niveau d'anglais s'est nettement amélioré, et puis j'étais capable de faire des choses de la vie de tous les jours, en fait, là. La routine, aller au supermarché et dire je voudrais acheter, je sais pas, une aubergine. Incapable, c'était incapable de sortir, tu vois. Ou alors tu vas au supermarché, voilà, tu donnes 10 euros et elle te rend pas la monnaie. Bah, il faut que tu sois capable de dire ma monnaie, can I have my change? Et ça, mais impossible, je pouvais pas, je connaissais pas les mots de la vie de tous les jours. Donc en fait, ça m'a vraiment aidé sur ce plan-là, en fait, sur être capable de me débrouiller sur des situations que tu vas vivre au quotidien et des choses que parfois en cours d'anglais, bah, t'apprends pas, en fait.
Pendant quelle période es-tu partie en Suède?
Alors, je suis partie de janvier 2017 et je suis revenue en juin 2017. Donc ouais, j'ai fait 6 mois là-bas. Janvier, je suis arrivée super froid, bien sûr. Voilà, il faisait nuit à 16h. Et ouais, donc en fait, il a fallu prévoir de faire ça. Mais c'était vraiment bien d'être partie à cette période. Parce qu'en janvier, j'ai fait la fin de l'hiver, qui était plutôt cool, et le printemps. Et franchement, moi, j'aime bien partir à cette période du printemps, parce que tu vois un peu le changement, tu sors de l'hiver, tout le monde a plus envie de sortir, envie de faire plus de choses, les gens sont plus cool. Et ouais, le printemps, c'était super beau. Franchement, la nature était vraiment dingue là-bas, et j'ai quand même pu profiter du froid, de la neige, tout ça, donc ouais.
As-tu changé de région, ou est-ce que t'es resté au même endroit où tu logeais?
Alors en fait, quand je suis arrivée, moi je suis arrivée dans une toute petite ville à Kalmar, dans le sud de la Suède. C'était une ville sur la côte, en fait, donc du coup j'étais à la mer. Ça, c'est important de le préciser, hein, parce que le temps, il est différent selon où t'es, vraiment au milieu des terres ou à côté de la mer. Et là-bas, mais vraiment, il faisait super froid, c'était l'angoisse, t'avais du vent. Mais après, c'était super beau, hein, parce que franchement, le paysage est dingue. Donc j'ai passé les 6 mois ouais, à habiter à Kalmar. Après, quand j'avais l'occasion, le week-end, je partais en voyage. Ouais, donc j'ai fait pas mal la Suède, en fait. J'ai été à Stockholm, j'ai fait Göteborg aussi, Malmö. Et je suis allée dans le nord de la Suède. J'ai eu la chance d'aller 2 fois en Laponie. Donc voilà, la première fois, je suis partie avec des copains, parce que ça c'est un truc trop bien, mais en fait, avant de partir, j'ai parlé à mes potes, je me suis dit, voilà, j'ai été prise pour partir en Suède. Et j'ai une copine qui m'a dit, mais attends, tu vas en Suède? Mais moi aussi. Et elle est partie à Umeå, dans le nord de la Suède, c'était une de mes meilleures potes. Elle était dans le nord, moi j'étais dans le sud, et un jour, elle m'a appelée, elle m'a dit, mais tu viens chez moi, hop, on loue un van, bam, on est parti en Laponie, comme ça, avec plein de potes, dans un van. C'était une galère, par contre. Parce que quand t'es en van, nous on était là, petits français, ouais, on loue un van, machin. Sauf que, ben, en fait, quand t'es en van et qu'il y a du verglas, mais c'est une galère. Du coup, dans les ronds-points, on était là, on était obligé de faire des tours de ronds-points et de rester comme ça. Parce qu'on avait peur de sortir et de faire une sortie de route. Mais ouais, du coup, je suis restée, donc, pour la plupart du temps à Kalmar et le week-end quand je pouvais voyager, voilà.
Comment as-tu préparé ce voyage? Est-ce que t'as pris beaucoup d'affaires? Est-ce que t'as regardé la météo pour savoir quoi prendre?
Ouais, alors c'était le facteur très important, comme je te disais, comme j'ai fait hiver, printemps et début d'été, je me suis dit, en fait, c'est vraiment la meilleure période pour les paysages, mais la pire, en fait, pour faire sa valise, parce que du coup, j'ai dû prendre donc de l'hiver, j'ai dû prendre un peu de printemps et de l'été. Donc là-dessus, en fait, je me suis préparée vachement à l'avance, parce que je me suis dit, mais en fait, comment ça va être possible de mettre tout dans une valise de 23 kilos, parce qu'il faut prendre l'avion. Et rien oublié, donc l'astuce a été de mettre des vêtements de ski sur moi, donc je suis partie vraiment, j'étais en bonhomme Michelin comme ça, en Lego, je pouvais même pas plier les bras à l'aéroport, j'avais ma grosse doudoune, un manteau de ski, des chaussures de ski sur moi, et après j'avais prévu des sous-couches en fait, des vêtements qui vont avec tout, t'emmènes pas voilà un truc avec une couleur ou un motif hyper bariolé, parce que tu peux pas le mettre avec tout. Donc c'était, bah, tu prends du pull noir, tu prends une robe que tu peux utiliser l'hiver et après l'été tu enlèves les collants. Enfin voilà, faut essayer de faire du mix and match pour que ce soit le mieux possible. Et ouais, j'ai essayé de m'y préparer à l'avance parce que la valise, ça me stressait vraiment avant de partir. Et c'est bête parce que j'aurais peut-être dû penser à d'autres formalités avant, par exemple, plutôt que ma valise. Voilà, par exemple, un truc auquel j'ai pas pensé, mon téléphone. Voilà, je suis partie, j'étais là, ouais, c'est bon, je pensais qu'il y avait l'itinérance des données. En fait, on en parlait beaucoup en 2017. Et du coup, je pensais que mon téléphone allait marcher là-bas. Je suis arrivée, paum, pas de réseau, rien du tout. Donc, mon téléphone n'a pas marché du tout. Et je me suis dit, ah ouais, mince, en fait, j'aurais peut-être dû penser à ça plutôt qu'à penser à quelles chaussures emmener pour la Suède, quoi.
Quelles sont tes anecdotes les plus drôles ?
Alors, mes anecdotes les plus drôles, je dirais qu'en fait, il y a vraiment une différence culturelle en Suède et en France. C'est-à-dire que moi, j'étudiais là-bas et les profs, ils étaient vraiment proches de nous. Tu vois, on discutait avec nous, ils nous tutoyaient. Bon, je crois qu'ils nous tutoyaient, hein, je parle pas suédois, mais je crois que c'était du tutoiement. Et du coup, avec des amis Erasmus, on sortait en boîte. Il y avait qu'une seule boîte à Kalmar, en fait, c'était tout petit. Et un soir, on voit nos profs débarquer, en fait, qui viennent faire la fête, qui boivent. Et tu te dis, mince, attends, c'est mon prof. Demain, j'ai exposé avec lui, il est là en train de boire une bière. Salut, ça va? Donc ça, c'était vraiment bizarre et assez marrant, ouais, comme anecdote.
Quel budget faut-il prévoir ? Argent de poche ou transport ?
Alors, pour le budget, je dirais que ce qu'il faut prévoir d'abord, c'est déjà la monnaie. Voir si t'as une monnaie forte, faible, et y penser avant aussi. Après, moi, j'avais une bourse du programme Erasmus+, pour partir. Donc ça, c'était vraiment cool. Ils m'ont donné la moitié au moment du départ et l'autre moitié au retour, en fait, parce que tu dois donner ton attestation pour dire que voilà, t'es bien arrivé et que t'es bien parti du pays pour avoir la totalité de la bourse. Donc moi, j'ai dû prévoir large parce que, en fait, ça dépend des pays. Mais moi, en Suède, ils m'ont demandé de payer 6 mois de loyer d'un coup. Donc c'est énorme, en fait. Donc là, j'ai dû tu vois, prévoir ça un peu à l'avance. Et pour le budget, en fait, j'ai calculé avec ok, ma bourse, j'ai à peu près ça par mois. Mon loyer, c'est déjà payé, voilà. Donc bon, voilà. Et après, du coup, ouais, par mois, j'avais prévu, je sais plus trop combien j'avais prévu, mais j'avais prévu peut-être à peu près comme si, ouais, j'avais peut-être 400€ de budget par mois hors loyer, tu vois, pour me faire un voyage, payer les courses, tout ça. Et puis après, bien sûr, j'avais prévu 400, mais en fait, t'achètes, et la Suède, c'est extrêmement cher. Donc, bah, finalement, j'ai vite été hors budget, donc voilà. Ouais, alors en fait, moi, avant de partir, j'ai pris rendez-vous avec ma banque, j'aurais expliqué que je partais dans un pays où, voilà, en Suède, c'est la couronne suédoise. Donc, ils m'ont dit, alors, première chose à faire, déjà, hop, tu actives une option internationale. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je payais en carte bancaire, j'avais pas de frais. Ça, par contre, les gens qui partent en voyage, parfois, ils y pensent pas. Mais quand le pays, c'est pas la même monnaie, bah, tu as des frais. Donc du coup, je pouvais payer là-bas, tranquille. Donc c'est-à-dire, quand j'allais faire mes courses, hop, je passais ma carte bancaire, je passais tout. Et moi, je suis partie peut-être avec, on va dire, 150€, en fait. Et après, j'ai échangé à l'aéroport. Et je suis arrivée en Suède en me disant, si jamais j'ai un taxi, un truc, c'est toujours bien d'avoir quelque chose. Imagine que t'arrives à un endroit où ils disent, je prends pas la carte, donc faut pas se retrouver bloqué. Et je suis arrivée dans des endroits, en fait, où on m'a dit, non, en fait, nous, on prend que la carte. Parce qu'en Suède, la monnaie physique, quoi, enfin, les pièces, soit les billets, ils détestent. Ils aiment pas ça, personne en a. Et partout, tu payes en monnaie, même pour le bus, tu payes en monnaie. Nous, en France, tu sors, t'es 1,20€ de bus, c'est de la monnaie, quoi, tu donnes, et après, voilà. Mais eux, pas du tout. Donc, t'as même le petit truc pour payer par carte et partout. Donc, finalement, je me souviens que j'avais ces 150€ et que j'y ai quasiment jamais touché parce qu'en fait, je payais tout par carte. Et c'est à la fin, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est toujours de la monnaie, attends, dans le porte-monnaie, faut que je la dépense, quoi.
Comment t'es-tu déplacée lors de ton voyage ?
Alors en fait, dans la ville même, comme c'était une petite ville, t'avais un réseau de bus qui était pas trop étendu, et en Suède c'était vraiment le vélo. Vraiment, c'est là-bas, c'est la religion du pays, donc toute la ville était recouverte de pistes cyclables, en fait. Donc, tu pouvais partout faire tes courses. Du coup, j'ai acheté un vélo quand je suis arrivée. Voilà, j'ai fait l'erreur que tout le monde fait, je l'ai pas attaché, machin, tout ça. On me l'a volé. J'en ai racheté un autre que j'adorais. Et du coup, ouais, donc je me suis déplacée principalement à vélo. Et après, sinon, pour les voyages, comme je disais, j'avais fait voiture avec des copains. Le train, mais le train, pareil, c'était trop long. Je me souviens, pour aller dans le nord de la Suède, quasiment 10 heures de train, vraiment super long. Et pour certains voyages, j'avais pris le bateau aussi, ouais, parce que j'étais en Lettonie, à Riga. Et c'était une croisière organisée par une association Erasmus, par ESN en fait, Erasmus Student Network. Et du coup, on a pris le bateau pour aller une journée en Lettonie, à Riga. Et il y en a qui l'ont fait aussi pour aller en Russie, qui ont pris le bateau pour aller en Russie. Mais alors par contre, le bateau, quand t'es comme ça sur la mer du Nord, mon gars, mais c'est vraiment... T'as envie de vomir, vraiment, de A à Z, parce que c'est des vagues, mais vraiment ambiance Titanic, quoi. Donc, voilà.
Ton retour s'est passé comment? Tu voulais revenir en France?
À la fin, j'avais un peu envie de revenir en France parce qu'il m'était arrivé un peu des galères. Je m'étais fait voler mon vélo, je me suis fait voler aussi mes papiers d'identité quand j'étais en voyage au Danemark, à Copenhague. C'est une histoire assez drôle parce qu'en fait, j'étais comme ça avec des copains, on s'est dit, on fait un week-end à Copenhague, c'était génial, on a adoré. Et à la gare, en fait, je dis au revoir à mes copains, donc on prend des selfies. Et tu vois très bien pendant le selfie qu'il y a quelqu'un derrière, en fait, qui était juste en train de me tirer mes papiers d'identité. Donc, j'ai un selfie avec le mec qui m'a volé mes papiers d'identité. Et voilà, donc c'était super. Donc, ce mec, voilà, on lui fait un petit coucou. Voilà, je sais pas s'il nous écoute, mais voilà, s'il te plaît, rends ma carte d'identité et aussi les 100 balles qu'il y avait dans mon porte-monnaie. Et du coup, voilà, donc à la fin, ouais, je t'avoue que j'en avais un petit peu marre. J'étais en galère parce que j'essayais de rentrer en France, mais sans papiers d'identité ni rien. Bah, du coup, c'était un peu chaud. Ça faisait 6 mois, c'était la première fois que je partais vraiment loin de mes parents. Donc, à la fin, un peu envie de revoir mes parents, mes copains. Et puis, finalement, quand je suis rentrée en France, j'étais là, ouais, en fait, non, je veux bien repartir.
Est-ce que t'as eu le mal du pays?
Ouais, un peu, parce que du coup, la Suède, au niveau de la nourriture, c'était vraiment différent. J'étais pas du tout fan de ce qu'ils mangeaient là-bas. Ils mangent beaucoup de lait, et en fait, c'est un truc aussi auquel on pense pas, mais ils mangent beaucoup de lait, de crème. Et moi, j'ai découvert là-bas que j'étais un peu intolérante au lactose, donc tous les plats typiques, ça me rendait malade. J'aimais pas du tout. Et la nourriture m'a manqué, c'était vraiment cher aussi là-bas, donc à la fin, t'en avais un peu marre. Tu sors une fois avec tes amis. Tu prends un cocktail, 25 euros le cocktail, ah, voilà, donc t'as plus trop envie de sortir aussi. Donc à la fin, j'avais un peu un mal du pays, de tout. Puis même, voilà quoi, j'étais, comme c'était une petite ville, on était même pas une centaine d'Erasmus, donc c'est vraiment un tout petit groupe Erasmus. Et à la fin, tu vois toujours les mêmes personnes, et j'avais un peu le sentiment que j'avais en France tu te traînes toujours avec les mêmes personnes, donc un peu envie de rentrer en France pour changer d'air.
Veux-tu retourner dans l'un de ces pays?
Alors oui, moi j'aimerais beaucoup refaire Copenhague, parce que cette ville et moi, on a eu une relation un peu du coup conflictuelle, comme là-bas j'ai eu une super mauvaise expérience de me faire voler mes papiers d'identité et que c'était pas du tout drôle. Donc j'aimerais beaucoup y retourner, et la Suède, oui. J'aimerais bien refaire Stockholm avec mes parents, parce que du coup ils ont pas pu venir à cette période-là. Donc j'aimerais bien qu'ils puissent voir voilà quoi, les villes où j'ai été et ce que j'ai fait pendant ces 6 mois, qui voient un peu le mode de vie, en fait, là-bas, ouais, carrément.
Mm-mm. En parlant de tes parents, est-ce qu'ils t'ont manqué?
Alors, en fait, mes parents, à la fin, oui, et je me suis rendu compte qu'ils m'ont manqué quand je suis arrivée à l'aéroport et qu'ils sont venus me chercher. Pendant ces 6 mois, en fait, j'ai pas vraiment eu le temps de me dire « mes parents me manquent ». Je les appelais pas si souvent que ça. Je sais que j'avais un pote qui était russe, lui, c'était « allô, maman » tous les soirs. Moi, pas du tout. En fait, avec mes parents, on s'appelait peut-être le week-end quand eux, ils travaillaient pas. Et du coup, on se racontait les nouvelles de la semaine. Et finalement, ça va assez vite. Mais à la fin, par contre, quand ça devenait un peu long, que tu vois, t'as des petites galères de papier, des trucs comme ça, t'es là, ah ouais, j'avoue que j'aimerais bien appeler papa-maman. Et que, ouais. Mes sœurs aussi m'ont un peu manqué. Parce que pareil, du coup, elles étaient plus jeunes, elles ont pas pu venir. Donc là, à la fin, j'avoue que j'étais là, ouais, la famille, ça manque un peu quand même. Et c'est pas la même chose de les voir sur Skype, par téléphone, que physiquement de voir tes parents, de pouvoir faire un petit câlin, un truc comme ça. Donc ouais, j'avoue que ouais, un peu ouais.
mot sätt att hinna komma och bara vara min lott. För vem bestämmer rätt och fel när moralen är död? Och folk når dig ju bara annat för sitt dagliga bröd. Staten backar bakom, företagen tar över och de pratar en massa prat med anständiga löner. Så mycket skit att man kan 2 miljoner magar tömt. Så de tvingar och simmar runt i ett hav av lögn. Sanningen är numera att minnen blott. Varje sak vi lägger till så försvinner något. Och ja, detta mina damer och herrar är vad vi är. Men jag hör gubbarna på tv säga de vill ha fred. Alla vill till himmelen men få vill ju dö. Kamma inbildningen med så inga frön. Man vill ha sin bit av kakan och man vill äta den med. Folk vill ta tillbaka men väga och ge. Och jag ska spotta pistlar som det. Var min sista dag och jag visste om det. Jag kanske hittar svaren i sista ronden. Har missat så många val att det visslar om det. Listan är lång den som vägen dit och dylik. Kostar vad du vill, det säkerligen ett dyrt pris. Har tänkt på det med mesta, det är tydligt. Fel ju dyrt, det testar en psykiskt. Man får betala för allt som betyder något. Sån är lagen, inget alls vi kan fly ifrån. Jag ser det jag ser och jag ser inget annat. Och det jag ser när jag tittar, jag mig rätt förbannad. Vi är på väg någonstans och jag vet inte var. Hoppas vi kan komma på det medan planeten är kvar. Skrila grejer, saker, är det något jag har? Men ändå så är jakten på dem och att plåga oss bra. Jag menar riskerna är många men de måste vi ta. För lidandet blir ännu större utan något kapital. Konsekvenserna spelar mig ingen roll. Den enda hjälp som jag kan få kommer ju inifrån. Och man kan fråga vem man vill, även de vänliga. Men ingen här har råd att assistera femlingar. Så det hela resulterar i en nedåtspiral. Så vi kör det man och man och till den är kvar. Alla vill till himmelen men få vill ju dö. Man vill kamma inbildningen men så inga frön. Man vill ha sin bit av kakan och man vill äta den med. Folk vill ta tillbaka men väga och ge.
Le mode de vie, il est comment là-bas? Est-ce que tu t'y es habitué?
Alors en fait, moi, j'ai été choquée, on va dire, parce que les Suédois, ils travaillent pas beaucoup. Donc, je sais qu'on n'a pas cette vision-là, mais il y a beaucoup de choses qui sont fermées tôt, en fait. Et par exemple, c'est pas rare que tu aies des magasins qui ferment à 16h, parce que bah, les Suédois, ils vivent pas mal... Ils ont vraiment cette importance de la vie personnelle, en fait, de la vie autre que du travail, d'avoir des hobbies, de faire beaucoup de choses en extérieur. Donc, c'est pas rare que vraiment à 16h tout soit fermé. Puis, comme c'était une petite ville, là, c'était encore plus accentué. Et même le week-end, c'est-à-dire que le week-end, c'était pas... tu pouvais voir une petite boutique sympa, tu y vas à 15h le samedi, on ferme dans une demi-heure. Et tu... moi, je me disais, mais attendez, mais le samedi, c'est votre meilleur jour, vous allez fermer tôt. Ils sont là, bah oui, parce que voilà, ils ont d'autres choses à faire, ils ont une famille. Et un truc aussi qui était vraiment marquant, et je m'en souviens toujours, c'est que voilà, le style vestimentaire là-bas, tout le monde s'habille comme il veut, t'auras jamais de gens qui viendront t'embêter dans la rue sur comment t'es habillé, sur qui t'es. Et il y avait énormément de papas, en fait, qui poussaient les poussettes. T'avais beaucoup de papas avec des enfants, et une chose qu'on voit pas, enfin, de plus en plus en France, mais vraiment moins que là-bas, alors que là-bas, c'était vraiment, tu voyais, voilà, beaucoup de papas avec les poussettes, avec les enfants, tout seul au parc avec les enfants, et c'est un truc qu'on voit un peu moins en France, donc voilà, mais le mode de vie était sympa, ouais. Moi j'aimais bien ce truc d'avoir du temps et de pouvoir voilà, faire beaucoup de sport, de profiter, voilà. Donc c'était vraiment bien.
Donc d'après toi, c'est lequel le meilleur mode de vie? Celui-là ou ici?
C'est une bonne question, tu vois, j'aime bien parce que pour avoir voyagé à chaque fois, je dis, j'aime pas dire qu'il y a un meilleur mode de vie, que voilà, dans tel pays c'est mieux, qu'ils font ça mieux que nous. Non, en fait, on fait juste les choses différemment. Et parfois, il y a des habitudes, voilà. En Suède, je sais qu'ils font ça. Déjà, ils sortent plus tôt parce que bon, bah, quand je te dis que l'hiver, il fait nuit à 16h, t'as pas envie non plus d'y rester. T'as l'impression de rester jusqu'à minuit, en fait, quand tu restes jusqu'à 18h quelque part. Donc, ils s'adaptent aussi aux conditions, en fait, aux habitudes. Donc je dirais que sur certaines choses, les Suédois, ils peuvent être très avancés. Par exemple, sur les questions d'égalité de genre, voilà, ça, ils sont hyper avancés. Le travail, ils ont une vision différente. Mais il y avait des trucs sur lesquels, voilà, on n'était pas forcément d'accord. Il y avait des choses où moi, ça m'énervait un peu. Par exemple, quand t'as envie de faire un truc, on dit que c'est fermé, voilà, c'est embêtant. Ou par exemple, la régulation pour l'alcool, qui est hyper stricte là-bas. Tu peux pas acheter une bière après 15 heures, quoi. C'est pas possible, parce que tu dois acheter dans un magasin spécialisé, ils te demandent ta carte d'identité partout. Tu peux même pas rentrer dans juste un bar sans montrer ta carte d'identité, alors qu'on voit bien que t'as plus de 18 ans. Mais ils demandent à tout le monde, ils sont hyper stricts, en fait, sur beaucoup de choses. Et des fois, ça, c'était vraiment embêtant. Donc sur ce côté-là, j'apprécie un peu moins, on va dire. Ouais.
D'accord. Et qu'as-tu préféré dans ce voyage ?
Je dirais franchement les paysages. Les paysages, c'est vraiment la chose que j'ai préférée. Le nord de la Suède, la Laponie, c'était vraiment dingue. Et quand c'est ton premier voyage et que tu peux voir des paysages comme ça, j'avais l'impression que c'était même pas réel, en fait. C'était magnifique et franchement, ouais, les paysages, et je dirais d'avoir pu, de mes propres yeux, voir une aurore boréale. Ouais, oh. Voilà. Bon, j'ai attendu longtemps. On a dû attendre dans le froid pendant très longtemps. Il faisait moins 25 degrés, donc c'était une sortie avec des potes et on s'est dit non. Il était 10h du soir et ils se sont dit non, mais il n'y en aura pas. Et moi, j'étais là, non, on attend, s'il vous plaît. Donc, on est resté vraiment très longtemps et à la fin, vers minuit, t'en as une qui est apparue, donc c'était magique. Ouais. Ouais.
Est-ce que tu t'es fait de nouveaux amis là-bas?
Oui, ouais, je me suis fait des nouveaux amis. Alors, comme je disais, on était un petit groupe Erasmus, donc ça dépend vraiment des villes, mais j'avais ma pote qui était vraiment dans une ville avec plus d'Erasmus, elle s'en est fait plus, mais nous, on était un groupe plus resserré, donc c'est des liens vraiment hyper forts, et d'ailleurs, je me suis fait deux amis là-bas que je vais revoir le mois prochain, tu vois, ça fait trois ans que je suis partie, pardon, et le mois prochain, je vais les revoir, tu vois, ces amis-là, Et ouais, je me suis fait vraiment des amis, je pense, pour la vie. Et j'ai toujours des nouvelles de mes amis, que ce soit des Américains, des Russes. Et on a essayé un peu de tous, on va dire, de tous s'entendre ensemble, quoi. Et c'était vraiment bizarre de se dire, on a des cultures vraiment différentes. Il y avait des choses vraiment, les Russes, les Américains, on n'était pas du tout d'accord. Dans la cuisine, ça gueulait de partout parce que t'es là, mais tu fais comme ça? Mais non, mais pas du tout, c'est pas bon ce que tu fais. Ou tu voyais ce qu'ils mangeaient, tu te disais, mais mon Dieu, vous allez vraiment manger ça? Et au début, on était un peu, il y avait même un peu du conflit, tu vois, là-dessus. Et à la fin, on a instauré ce truc, c'est qu'on habitait tous dans une même résidence. On a dit non, vas-y, on prend une cuisine un soir de temps en temps, et il y a une personne qui fait de la bouffe de son pays, et voilà, on goûte tous ensemble. Donc ouais, je me suis vraiment fait des amis, avec des liens très forts. Ouais.
Au final, qu'est-ce que tu as appris en revenant de Suède ?
Alors j'ai appris qu'il y avait des manières différentes de faire et que c'était ok en fait, que chacun pouvait faire à sa façon. J'ai aussi appris que on n'apprenait pas partout pareil. En fait, moi, je pensais que l'université, c'était comme ça, tu vois, t'apprends, machin, t'as une note. Et en fait, là-bas, c'était vachement différent, c'était par projet. J'étais dans une école de commerce, business, un peu, là-bas. Et ils avaient vachement de liberté sur leur projet, sur ce qu'ils devaient faire. Et moi, j'avais rendu un truc hyper scolaire. Non, mais attends, on a appris comme ça, machin. Et je me souviens que j'avais une super mauvaise note. Ils m'avaient dit, vous avez pas du tout compris. Et c'est là que je me suis rendu compte, ah, d'accord, il y a d'autres moyens de faire. Et puis... on peut être noté d'une manière différente. Nous, c'était des lettres, et c'était des lettres hyper larges, donc tu vois pas vraiment, il y avait pas vraiment une notation précise comme nous on peut avoir en France. Et je dirais que ouais, j'ai appris là-bas qu'on peut faire des choses différemment, et que j'ai appris aussi à relativiser sur plein de choses, à me dire bon bah c'est pas grave là, quand j'étais vraiment dans ma galère où j'ai plus de papiers pendant très longtemps parce que j'arrivais pas à les récupérer et tout ça, je me suis dit bon écoute, voilà, c'est comme ça, la vie, machin, profite de ce que t'as, et voilà quoi. Donc ouais, relativiser, voir qu'il y avait des manières différentes, rencontrer des gens du monde entier, voir qu'il y avait d'autres, voilà, d'autres langues, d'autres types de nourriture, d'autres façons de, voilà, de se rencontrer, d'autres traditions. Donc ouais, ça a été vraiment une belle leçon sur plein de choses sur la vie, et je pense que ça a été ma première grosse leçon sur la vie. J'avais 19 ans, et d'apprendre tout ça, je trouvais ça vraiment dingue, quoi.
Y a un endroit que tu voudrais partir ou aller ?
Alors prochainement, j'avoue que j'avais un peu le rêve fou de me dire moi j'aimerais trop partir en Australie, tu vois, mais sur le long terme. Et moi en fait j'aime bien voyager, j'aime pas trop partir pour me dire je pars pour un week-end ou quelques jours, parce que je trouve que c'est pas, t'as pas vraiment le temps de voir vraiment le pays, de voir comment les locaux y vivent. Et moi j'aime bien partir sur voilà un mois, deux mois, un an, je trouve ça génial. Bon après faut voir avec le boulot et tout, mais ouais, l'Australie j'aimerais bien, et après j'ai jamais fait aussi Budapest, et je sais pas, en ce moment ça m'attire pas mal, donc j'aimerais bien faire ça.
J'ai une question. Tu peux l'enregistrer ?
Bah oui, Greg.
Merci. Salomé, quel conseil tu pourrais donner à nos lycéens qui souhaiteraient voyager bientôt ?
Alors, je leur dirais déjà de se renseigner autour d'eux. Déjà, premièrement, de voir s'il y a des jeunes, en fait, qui ont à peu près leur âge, qui sont déjà partis. Parce que c'est bien d'avoir un retour d'expérience institutionnel, de voir comment ça se passe, les formalités. Mais en fait, discuter avec quelqu'un de son âge et de voir que, cette personne, elle a fait comme ça, elle a rencontré telle personne, elle s'est rendue ici. Ça permet de voir un peu comment c'est possible et de l'adapter à nos propres réalités. Parce que si tu te dis, ouais, cette personne, elle a fait ça, mais durant des études supérieures et que toi t'es encore au lycée, y a un peu un décalage. Donc je dirais premièrement de se renseigner auprès de ses pairs, auprès des jeunes de son âge, de voir aussi avec les profs, avec son lycée, ce qui est possible, et puis de pas hésiter en fait à demander de l'information et surtout de pas avoir peur, parce que en fait le début c'est on cafouille un peu, il y a toujours des trucs qui sont un peu pas clairs, mais une fois que tu y es, c'est vraiment la meilleure expérience de ta vie. Voilà.
Merci.
Ouais. Bravo, c'est cool. Ouais. Juste quand même, petite conclusion, nous étions, c'est un instant T, c'est une discussion qui pourra être réutilisée, réexploitée, parce que c'est une expérience d'une personne à l'étranger. En attendant, les trois intervieweurs de qualité étaient Rose, Maïwen et Danty. Ils sont du lycée Augustin Hébert et étaient accompagnés par un de leurs professeurs, Grégory
Zazali.
Merci Salomé et merci à vous, c'était très intéressant.
Merci. Bravo.